Libre à dire. Un regard courbe comme un sabre, sur un monde retors comme un patron. www.libradio.org. La radio qui aiguise les lames, et qui étête les corps.
Nous allons désormais parler de la marmite. Qu'est-ce donc que la marmite ? Un mouvement artistique, culturel et citoyen. Une université populaire nomade de la culture. S'agit de cette expression splendide. Mathieu, bienvenue à toi.
Merci beaucoup de cette invitation.
Eh ben avec
on est
beaucoup
très, très honorés.
Ah ben, nous, on a beaucoup de plaisir à vous recevoir. Voudrais-tu peut-être te présenter, toi, l'aune de la marmite ? Qui es-tu au sein de la marmite ?
Ben, je suis le concepteur et puis je coordonne les activités, mais on essaye d'avoir une horizontalité dans notre fonctionnement, dans l'indemnisation des uns et des autres, un principe d'égalité. Me présenter, je suis touché par l'interview précédente parce que je suis fils d'ouvrier immigré métallurgiste. Fils d'un ouvrier italien qui s'est beaucoup battu politiquement, qui a été très associé au mouvement communiste, mais le mouvement communiste italien avec une tendance plutôt proche d'Antonio Gramsci. Et puis une fois à Neuchâtel, il s'est beaucoup battu pour les droits politiques des immigrés. Et il a permis, avec d'autres, que le droit de vote communal et cantonal soit reconnu. Le droit de vote communal l'était déjà, et également l'éligibilité communale. Donc il y a eu une grande foi, en tout cas, dans les conditions formelles d'une démocratie plus accueillante. Alors peut-être qu'on peut douter maintenant de ce combat, on peut douter peut-être du droit de vote, peut-être que les rapports de force extérieurs au Parlement comptent aussi bien. Et je pense que c'est important que des radios comme la vôtre, sur un plan associatif, que Gauche Hebdo, qui suit aussi les mouvements sociaux et pas que la politique au niveau des législatifs ou des exécutifs, se rendent compte que les grands progrès humains, souvent, sont nés de rapports de force extérieurs au Parlement que les parlements ont ensuite entérinés. Alors, c'est important d'entériner, de légiférer, mais souvent, ces rapports de force n'étaient pas redoublés du même rapport de force à l'intérieur des parlements. Peut-être dire un mot alors de présentation de la marmite.
Mais...
D'une certaine manière, il nous apparaît que toute pensée critique doit être située. Or, on est né à Genève, on cherchait un nom qui nous rattache à Genève. Alors évidemment, ça nous rattache, cette marmite, à l'histoire la plus traditionnelle de Genève. On peut même se dire, mais bon Dieu, c'est quoi ce symbole ? C'est le symbole du souverainisme, etc. Bon, avant d'être tout cela, la marmite, c'est l'idée d'un plaisir culinaire, et d'un plaisir qui n'est pas singulier, mais partagé. Alors, associer la culture à un plaisir, et un plaisir que l'on partage, c'était de bon aloi. Ensuite, cette marmite, dans l'histoire de la mère royaume, eh bien, c'est une arme. Et on pense que la culture peut être une arme. Et c'était une arme, en l'occurrence, pour l'indépendance d'une république par rapport à des principautés ou à des monarchies. On pense effectivement que ça peut être une arme pour l'indépendance de l'esprit. Mais en fait, la marmite renvoie aussi à une autre réalité. Et là, peut-être qu'on est plus proche des idéaux de Gauche Hebdo ou de ceux de votre radio. La marmite, c'était le nom d'une association mutualiste née à la fin du Second Empire, au XIXe siècle, à Paris, de deux ouvriers relieurs, dont l'un est devenu fameux comme l'un des ouvriers peut-être les plus importants du XIXe siècle en France, un internationaliste, Eugène Varlin. Et tous deux se rendaient compte d'un mouvement qui ne s'appelait pas encore ainsi à l'époque, mais un mouvement de gentrification de la ville. Ils travaillaient au cœur de la ville, mais n'avaient plus les moyens d'y habiter. Et donc, ils habitaient à l'extérieur de celle-ci. Mais pour se nourrir, eh ben, ils devaient payer très cher des mauvais morceaux de viande ou autre. Alors, ils ont eu l'idée, Eugène Varlin et une autre ouvrière relieuse féministe importante elle aussi et qui n'est pas morte comme Eugène Varlin le dernier jour de la Commune de Paris, Nathalie Lemel qui venait de Bretagne, eh bien, ils ont eu l'idée de se cotiser pour se payer un local et que le plus inspiré de tous les relieurs et autres ouvriers, artisans, employés qui partageaient les principes de la marmite devienne le cuistot de tous. Et une fois l'estomac sustenté, cette marmite devenait vraiment un lieu de débat, de délibération citoyenne, un lieu de transformation sociale non dogmatique, c'est-à-dire que tous les courants transformistes, évidemment, mais tous les courants transformistes se retrouvaient, les proudhoniens, les marxisans, les blanquistes, peut-être même quelques saint-simoniens. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est que ce lieu était un lieu où on se sustentait, donc les éléments de la bonne chair étaient présents. C'est un lieu où on s'interrogeait sur le devenir social. Et c'était aussi un lieu de culture, c'est-à-dire que les artistes qui partageaient la cause de ces ouvriers artisans, on a le récit par Michel Cordillot, l'historien du mouvement ouvrier français, le récit de tel chanteur d'opéra qui, une fois son tour de chant terminé, venait chanter gratuitement pour les ouvriers réunis à la marmite. Alors, elle a eu un tel succès, cette première marmite qui est née à la rue Mazarine, dans le quartier latin, à l'époque qui avait évidemment une autre sociologie qu'aujourd'hui. Cette première marmite a eu un tel succès en 1868 qu'il y en a une deuxième, une troisième, une neuvième, une dixième, jusqu'à ce qu'elle soit condamnée par le Second Empire, qui observait qu'on se sustentait mais qu'on débattait beaucoup. Et pour certains historiens, ce sont dans des lieux comme ceux-ci que sont nés les grandes inspirations législatives de la Commune de Paris. Et donc, d'une certaine manière, la marmite à Genève entend se réclamer d'un lieu où culture, repas, délibération sociale puissent s'accorder et ne pas être pensées comme des choses distinctes. D'une certaine manière, notre sous-titre, Université populaire nomade de la culture, nous associe à un autre mouvement important à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, les universités populaires. À une époque où on considérait que le suffrage universel voyait des populations pouvoir être manipulées, par exemple pendant l'affaire Dreyfus, par l'extrême droite, par l'antisémitisme. Et donc on considérait que devait être associé au droit de vote une forme éducative, le développement d'une pensée critique. Alors il y a eu des universités populaires bourgeoises, il y a eu des universités populaires protestantes, catholiques, mais il y en a eu également qui étaient vraiment tenues par le mouvement ouvrier, par les syndicats, par un homme dont je sais qu'il vous est cher, qui a été l'initiateur des bourses du travail, Fernand Pelloutier, qui considérait qu'il fallait que les ouvriers aient, c'est son expression, la science de leur malheur, qu'il fallait comprendre l'exploitation, comprendre comment le travail pouvait être source d'aliénation, et c'est cette compréhension-là, cette science-là, qui pouvait en faire des révolutionnaires, des gens aptes à penser une société nouvelle et à dénoncer la société actuelle. Ce qui m'intéressait, c'est que les universités populaires, contrairement à bon nombre d'universités populaires actuelles, qui considèrent et qui font un boulot important, notamment par rapport à des exilés, de leur permettre d'apprendre plus facilement et à bas tarif le français, d'apprendre des rudiments de droit, des rudiments de mathématiques, de comptabilité, etc. À l'époque, on considérait qu'un citoyen, c'était quelqu'un qui pouvait aussi avoir accès, par-delà ses savoirs de base, à la science, à la culture. Il était question de Brahms. Il était question de Balzac, il était question de tout cela. Parce que d'une certaine manière, être citoyen, c'est acquérir une vision du monde, alors dans notre esprit critique, mais acquérir une vision du monde. Alors ça, c'est peut-être ce qui nous relie aux universités populaires. Et puis enfin, cet autre sous-titre que tu as rappelé, un mouvement culturel, artistique et citoyen, et ces trois adjectifs définissent peut-être plus précisément ce que l'on fait effectivement. On propose à des groupes sociaux des parcours de 8, 10, 12, 14 mois parfois. Ces groupes sociaux sont issus d'associations. Ça peut être des femmes victimes de violences domestiques, ça peut être des exilés, ça peut être des jeunes en situation de décrochage scolaire ou sociaux, ça peut être des personnes des 3e et 4e âge, etc., etc., des personnes en situation d'addiction. On propose à des groupes sociaux qu'on ne retrouve pas ordinairement dans les institutions culturelles officielles ou dans les institutions formelles de la démocratie, c'est un peu nos deux critères, on leur propose un parcours dans les institutions culturelles soutenues par l'argent public, celle un peu que vous critiquiez avant de me donner la parole, me semble-t-il. Et d'une certaine manière, elle se pique de proposer une culture avec l'argent de la démocratie, il est intéressant de voir comment réagissent les uns et les autres. Alors évidemment, ces populations n'y vont pas d'elles-mêmes vers cette culture, parce qu'il y a des obstacles qu'on pensait essentiellement financiers ou géographiques, et puis on observe qu'il y a des obstacles beaucoup plus sérieux, ce que Bourdieu appelait les sentiments d'indignité ou d'inaptitude face à la culture. Des obstacles psychosociaux, j'ai rien à me mettre, je ne sais pas où trouver la formation, on va me repérer comme n'étant pas, ne ressemblant pas aux gens qui se retrouvent dans tel foyer. Donc des obstacles psychosociaux, symboliques, cognitifs, qu'une médiation culturelle un peu alerte peut permettre de lever. Donc on propose un parcours qui permet d'accéder à des spectacles, à des films, à des expositions, à des rencontres avec des intellectuels. C'est un peu les quatre types de disciplines qui sont charriées par chacun de nos parcours. Toujours dans l'idée non pas d'admirer ce que l'on va voir, mais d'exercer son esprit critique à cet égard. Mais évidemment, le deuxième adjectif révèle qu'il y a un autre idéal au sein de la marmite, ça n'est pas de considérer simplement les gens auxquels on s'adresse comme des récipients vides. Ce sont des gens qui sont porteurs d'une sensibilité, qui sont porteurs d'une vision du monde, qui sont porteurs de représentation, qui sont porteurs d'une créativité qui ne demande qu'à s'exprimer. Qui demande à obtenir une forme d'audibilité, comme dirait Jacques Rancière. C'est des sans-écoute, comme dirait Ridel Luca. Et donc, ce que l'on veut, et c'est la raison pour laquelle dans chacun de nos groupes, il y a également un artiste, c'est avec un artiste essayer de cristalliser dans une forme sensible quels sont les sentiments, les affects et les représentations de ces groupes sociaux qu'on n'entend pas. Et l'idée, c'est d'aboutir, d'où le troisième adjectif, à une forme qui va être vernie dans l'espace public, et qui donne la parole à des groupes sociaux qu'on ne voit pas dans les parlements, qu'on ne voit pas ordinairement sur nos scènes. Donc, on va essayer, on fait des vernissages au fur et à mesure que se terminent nos parcours, mais on va essayer tous les 5 ans de proposer une contre-image de la Suisse occidentale par le vernissage. Par exemple, dans 5 ans, peut-être qu'on aura 35 œuvres de 35 milieux sociaux différents sur 35 thématiques différentes. Par exemple, on a eu une œuvre chorégraphique de jeunes décrocheurs scolaires sur la peur. Quelles sont leurs peurs individuelles et collectives aujourd'hui ? Est-ce que c'est de ne pas trouver l'amour, de ne pas trouver un boulot, de ne pas trouver sens à leur vie ? On aura un travail de personnes en situation de handicap avec une plasticienne sur la thématique du bonheur. C'est quoi le bonheur ? On aura une œuvre de gens issus du quart-monde qui ont travaillé avec un écrivain, Jérôme Maizot, sur la thématique de l'injustice. Quelles sont les injustices les plus nettement ressenties ? Est-ce qu'elles sont économiques ? Est-ce que c'est le logement ? Etc. On aura un travail réalisé avec un cinéaste par des femmes victimes de violences domestiques sur l'humanité de l'être humain. Qu'est-ce qui fait que je me sens un être humain respecté ou pas dans ma dignité ? Et d'une certaine manière, ces thèmes-là qui sont des thèmes existentiels et citoyens sur lesquels se prononce la classe politique, sur lesquels se prononcent les masses médias, sur lesquels se prononce le monde académique, eh bien l'idée c'est d'avoir une autre voix, celle des couches populaires, celle, je dirais même dans une expression de Marx, non pas du prolétariat mais du lumpenprolétariat. Donc de gens qui n'ont pas forcément développé une conscience de classe mais qui, dans un groupe, prennent conscience d'un point de vue qu'ils peuvent avoir sur le monde, prennent conscience peut-être de revendications qu'ils peuvent formuler. Ça a été le cas, par exemple, c'était vraiment magnifique. Il y a 10 jours, on a verni au théâtre Benoît Besson à Yverdon le travail de très jeunes exilés, une Kurde de Syrie, des Érythréens, etc., qui ont travaillé pendant plusieurs mois avec un artiste slammer sur la thématique de la sollicitude. C'est quoi la sollicitude ? C'est quand même fameux. Des jeunes qui viennent d'arriver en Suisse, qui ne maîtrisent pas le français, et qui viennent travailler sur une thématique où c'est subtil. Alors, ils ont rencontré une prof de la Sorbonne, Sandra Laugier. Ils ont vu un film de Grand Corps Malade, Patient. Ils ont allé voir un spectacle qui travaillait sur, suite à une expérience d'un metteur en scène qui travaille à Genève maintenant, Denis Maillefer, sur les pompes funèbres, sur notre rapport aux morts, la manière dont on porte le soin aux morts. Et puis ils sont allés voir une exposition au Palais de Rumine sur la thématique de la disparition. Qu'est-ce qui compte pour eux et qu'est-ce qui mérite de ne pas disparaître, de quoi il faut se soucier aujourd'hui, pourquoi il convient d'avoir de la sollicitude. Entendre des migrants nous dire cela, entendre des migrants nous faire la leçon sur le manque de sollicitude peut-être reçu ici, les entendre parler de l'hospitalité qu'eux aurait réservé peut-être à des migrants dans leur pays et l'entendre sur une scène huppée, institutionnelle, entendre une voix qui n'y a que rarement la parole, faire en sorte que les gens parlent et ne soient pas parlés, c'est un enjeu citoyen démocratique important. Et la culture, elle a ses avantages par rapport à ces enjeux citoyens d'ajouter de la chair aux idées, d'ajouter une matière sensible. Or, pour remuer les foules, on le sait, il ne s'agit pas simplement de s'adresser à elles au niveau des représentations, il faut aussi les toucher au niveau des émotions. Les représentations, nos visions du monde, orientent peut-être nos décisions politiques. Le caractère sensible d'une œuvre d'art est de nature à créer peut-être la force dynamogénique qui nous fait aller dans cette direction. Donc affect et représentation sont les deux éléments qui sont travaillés dans la marmite et qui constituent, je pense, un peuple agissant.
D'accord. Énormément de choses qui ont été dites là dans ce que tu viens de dire, qui nous donnent envie de réagir à tout point de vue. C'est vrai que c'est extrêmement dense, hein, mais c'est extrêmement plaisant de t'entendre. Une question extrêmement triviale. Tout ce travail qui est fait et qui paraît essentiel, fondamental et vraiment producteur de sens pour le coup, est-il d'une certaine manière archivé ? Est-ce que les personnes qui n'y assistent pas peuvent par la suite y revenir vous-même au travers de photos, de témoignages, d'enregistrements sonores, de mapping sonore ou de choses comme ça ? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites également ?
Oui, absolument. En fait, on a comme vous un site internet et ce site internet est lui aussi une université populaire nomade de la culture. Alors, dans le respect de la parole et de la fragilité de chacun. Mais il y a plusieurs choses sur notre site internet. Il y a des carnets de bord de toutes les séances, de tous les groupes, sur toutes les thématiques. C'est-à-dire les préparations à la sortie au cinéma, les retours suite à une exposition, ce qui s'échange dans ces groupes, tout cela, dans la mesure où ils sont d'accord que leurs remarques, leurs doléances figurent, est retranscrit. Donc il y a des dizaines et des dizaines, des cent, enfin il y a plus de 100 carnets de bord qui sont actuellement accessibles sur notre site internet, sur chacune des thématiques, sur chacun des groupes sociaux, et qui sont rédigés par les médiatrices et les médiateurs culturels. Se retrouve aussi sur notre site une heure de dialogue avec chacun des intellectuels qui ont été invités. Alors parmi ces intellectuels, j'en citais une, Sandra Laugier, on pourrait dire alors quelqu'un qui est d'un tout autre bord peut-être politique, Nathalie Heinick, mais il y a eu également des gens comme Alain Badiou, il y a eu un sociologue critique comme Loïc Vacan, etc. Donc on a à peu près 14 heures d'invités politiques que l'on retrouve sur les sites internet. Et puis on a également l'enregistrement de toutes nos veillées. Les veillées de la marmite, ce sont 3 soirées par année où nous sommes une forme d'association qui envisage une démocratie interne la plus ouverte possible. 3 soirs par année, on se retrouve sur nos 3 axes, ce que je viens de dire, participer à la démocratisation culturelle, promouvoir l'art collaboratif, celui qui voit l'artiste non pas faire du public un consommateur, mais l'introduire dans la production même de ses œuvres, et puis un moment citoyen. Et donc on a une veillée par année qui interroge ce qu'est la démocratisation culturelle, une veillée par année qui interroge ce que c'est que collaborer. Qu'est-ce que c'est que collaborer ? Qu'est-ce que c'est que collaborer sans faire de l'autre l'instrument de son propre objectif ? Qu'est-ce que c'est que communer ? Pour faire un lien avec les communs qu'avait beaucoup analysé Marx dans le Capital, interrogeant le mouvement des enclosures. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement citoyen véritablement ? Qu'est-ce que c'est qu'un moyen qui considère la démocratie d'un point de vue direct ? Et non pas sous une forme représentative où le simple citoyen qui a une parole fragile est toujours parlé par soi-disant plus intelligent, plus sensible que lui. Hein? Et alors 3 soirs par année, on interroge ces 3 objectifs, ces 3 ambitions de la marmite et on le fait de manière la plus ouverte qui soit. Il n'y a pas que les associés, tous ceux qui le souhaitent peuvent venir à ces soirées. Il y a toujours 30 minutes initiales qui sont comme un aiguillon pour la réflexion, où on invite soit des gens qui ont participé à un parcours de la marmite, soit des gens extérieurs et qui ont des expériences qui nous semblent être intéressantes pour nous, qui peuvent enrichir la nôtre. Et puis ensuite, il y a une heure d'échange, de débat en commun. Et pour payer ces gens qui améliorent la marmite, eh bien, on offre un repas à tous ceux qui participent. Et donc, cette marmite retrouve cet idéal du repas partagé d'Eugène Varlin et de Nathalie Lemel dans les années qui ont précédé la Commune de Paris.
Alors voilà, tu viens de dire le mot sur lequel j'aimerais un petit peu rebondir. On a parlé de Varlin, dont on sait que c'était un communard. La commune de Paris, pour vous, c'est un élément déclencheur. C'est quelque chose dans l'histoire qui... voilà, un surgissement particulier, parce qu'on sait toutes les valeurs qui y sont attachées, les valeurs que tu viens d'énoncer, les valeurs de démocratie directe, etc. On sait que beaucoup de personnes se sont ensuite dites de la Commune de Paris d'une certaine manière. Est-ce que, voilà, est-ce que ça, c'est un élément de l'histoire qui est déclencheur à la marmite ?
Oui, le symbole de la Commune de Paris est un symbole à plus d'un titre intéressant. C'est un mouvement politique qu'on peut dire d'une certaine manière auto-émancipateur, où véritablement des gens extrêmement modestes ont pu accéder au pouvoir, ont eu le souci de voir ce pouvoir, cette parole politique s'échanger, se partager dans des clubs qui étaient constitués dans des lieux du politique, qui étaient constitués dans des lieux d'église, dans tout lieu qui pouvait accueillir une collectivité, des femmes avaient accès à cette parole politique, des étrangers même. Hein. Il y a de très fameux étrangers qui ont pu être des élus de la Commune de Paris. Donc cette idée d'une démocratie directe et d'une démocratie large, d'une démocratie qui faisait aussi de la culture un enjeu majeur, on se souvient l'importance des commissions dans lesquelles était impliqué Gustave Courbet, c'est effectivement un idéal d'une démocratie pleine et entière, arrimée à la vie sociale, et c'est une leçon de démocratie au sens où pouvaient l'entendre peut-être les Grecs, et où pouvait l'entendre un philosophe comme Castoriadis, pour en citer un parmi beaucoup d'autres, mais on pourrait parler des écrits de Marx dans le feu de l'action en 1871.
Oui. Moi, je vais citer Jules Vallès parce que j'aime beaucoup la pièce de théâtre de Jules Vallès, qui est effectivement en même temps une fiction d'une réalité d'un participant. Donc, il a écrit vraiment cette pièce de théâtre. Et puis, il y a Watkins pour le cinéma, parce qu'effectivement, il y a cette production cinématographique d'une radio commune et qui sont deux des points de vue, deux des angles possibles pour ne citer que des personnes parmi, comme tu viens de le dire, tant d'autres. Alors, on a bien compris l'importance de la Commune de Paris et des valeurs qu'elle transmet. Il y a également ce parcours, donc cette déambulation. Alors, moi, je l'aperçois sur deux axes. Je la vois comme interne, mon chemin de réflexion que je vais produire à l'intérieur de moi, et ensuite celui que je vais faire géographiquement et culturellement dans des lieux qui sont possibles. Et alors, à Genève, est-on, selon toi, dans une situation où il en existe de nombreux que l'on peut visiter et qui vont vous appeler vers eux, ou à la marmite, vous avez déjà des idées sur effectivement des parcours qui pourraient être produits, ou est-ce que ce sont les gens qui viennent et qui sollicitent et qui disent « Tiens, moi, j'aurais bien essayé de monter ce projet-là ». De quelle manière est-ce que ça se passe ? Dans quel sens ?
C'est une très très bonne question. D'une certaine manière, nous proposons des parcours qui sont déjà constitués à des groupes. Donc il y a une offre qui est une forme de belle contrainte, mais la manière dont cette offre sera vécue est d'une certaine manière un potentiel de critique des institutions. Alors, Ce que l'on fait, c'est qu'on va trouver des institutions pour savoir si elles sont d'accord de collaborer. Et à partir du moment où l'une ou l'autre d'entre elles s'y ouvre, on va essayer de constituer un parcours sur une thématique pour recueillir des points de vue populaires sur des thèmes comme le bonheur. Alors, par exemple, on a des femmes migrantes qui nous disent ce qu'elles entendent par la liberté. On a des personnes en situation de handicap qui vont interroger le bonheur. Des personnes, de très jeunes gens issus d'une classe du cycle de Montbrillant qui vont interroger les croyances. On a, par exemple, un autre groupe d'un cycle de Montbrillant qui interroge l'amour. On a des exilés du camping du Bois de Baie qui vont interroger la création, la créativité. Des familles du Quart-Monde dans le canton de Vaud qui vont interroger la notion des origines. On a un groupe, là aussi, de très jeunes migrants qui interrogent la sollicitude. Un autre groupe de jeunes gens à Neuchâtel qui ont des difficultés d'insertion sociale, qui interrogent la sauvagerie, etc. Et qui le font à chaque fois avec un parcours où il y a des spectacles, une exposition, une rencontre, un film, un artiste associé. Alors peut-être que je peux vous donner un exemple. Bah, par exemple...
Pendant que tu cherches, je rappelle www.lamarmite.org.
Voilà.
Parce que tout est dessus et c'est extrêmement impressionnant, les contenus de ce site.
Voilà, peut-être parler, je ne sais pas de qui parler. Bah, voilà, peut-être parler, par exemple, de la thématique des croyances. Puisqu'on va bientôt devoir réfléchir sur ces questions-là. Un groupe de Montbrillant, donc une quinzaine de jeunes, ils sont un peu plus de 15 d'ailleurs, sont allés voir un spectacle d'Isabelle Mater au Théâtre des Marionnettes de Genève, Un os à la noce, qui rejoue l'Antigone de Sophocle, mm-hmm. avec ce couple de Créon et de Sophocle. Est-ce que c'est le droit qui doit l'emporter sur la foi? Est-ce que la foi doit rester dans le domaine privé ou est-ce qu'elle peut advenir dans le domaine public? Ils sont allés voir ensuite un spectacle de danse à l'ADC, Ligne de conduite, qui est une réflexion sur, d'une certaine manière, les danses traditionnelles du sud de l'Italie, la tarentelle, et leur exploitation commerciale par la suite. Donc quelque chose qui a trait à des croyances primitives et qui devient un fait culturel ou un fait, d'une certaine manière, promotionnel pour la région. Ensuite, ces jeunes de Montbrillant sont allés au MEG, assister à l'exposition « Afrique, les religions de l'extase » pour interroger, là encore, une forme de religiosité. Ils ont rencontré le philosophe et essayiste Pierre Thévagnan, qui a beaucoup réfléchi sur les questions de religion, notamment à l'enseigne de Karl Marx et de ses réflexions sur l'opium du peuple, en considérant qu'elles n'ont pas toujours été comprises à leur juste valeur. Et puis, ils sont allés voir, ces jeunes, un film d'une artiste nigériane, un premier film de Rungano Nyoni, « Je ne suis pas une sorcière », qui interroge aussi peut-être des préjugés que l'on peut avoir sur les pouvoirs mystérieux de la religiosité. Et donc, ces jeunes font tout un parcours avec un travail de médiation en amont de chacune des sorties. À l'issue de ces projections, représentations, rencontres avec un intellectuel, eh bien, ils fourbissent aussi leur intelligence de ce thème que sont les croyances. Et tout ça se retrouvent dans des carnets de bord que vous retrouvez ensuite sur le site. Et à l'issue, ils vont réaliser une œuvre d'art avec là deux jeunes plasticiennes, Lomé Mevo et Alice Izzo. Et cette œuvre va être vernie, ce sera dans quelques semaines et mois. Et donc, on a fait non seulement de ces jeunes des regardeurs, mais également des producteurs sous une forme sensible de leur point de vue sur les croyances. L'idée, c'est que ça n'est pas... d'une certaine manière un micro-trottoir qu'on veut effectuer avec le peuple. C'est pas lui faire honte de sa parole ou de sa pensée en le prenant à brûle-pourpoint puis en lui demandant qu'est-ce que vous pensez de la sollicitude, qu'est-ce que vous pensez du bonheur, qu'est-ce que vous pensez des croyances, qu'est-ce que vous pensez de l'humanité de l'être humain, qu'est-ce que vous pensez des peurs qui agitent la société aujourd'hui, qui sont toutes des thématiques dont s'est emparée la marmite, mais leur donner la possibilité de nourrir leurs réflexions de points de vue extérieurs, non pas pour que ces points de vue s'imposent à eux-mêmes, qu'ils gardent une distance critique, qu'ils puissent les mettre en débat collectivement, et qu'ensuite, ils définissent sous une forme sensible, avec l'aide d'artistes, là en l'occurrence des plasticiens, leur propre témoignage sur cette thématique des croyances.
Et qu'ils forment des imaginaires également, puisque
exactement.
On touche à l'art également. Y a-t-il des sujets tabous? Y aurait-il possiblement des sujets tabous?
Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a parfois... pour des raisons, peut-être des très jeunes personnes qui n'auraient pas 18 ans, si un artiste considère que son œuvre ne peut être vue qu'à partir de 18 ans, oui. Eh ben, on renoncera à proposer cette œuvre-là à ce groupe. On a parfois eu la tentation d'aller très loin dans l'ouverture, en proposant même des spectacles qui sont très exigeants du point de vue verbal à des personnes qui maîtrisaient très mal le français, mais en se disant que lire un spectacle à travers son apparaître, à travers le jeu des comédiennes et des comédiens, à travers l'interprétation d'un décor, ça peut déjà faire sens s'il y a une médiation qui accompagne. Donc on a pu aller vers des choses très complexes. Parfois, on doit tenir compte d'une fatigue, notamment avec des populations en situation de handicap ou avec des personnes des 3e et 4e âge, mais On n'a pas de tabou autre que cela. On pense que moyennant une bonne médiation, tout être humain peut se poser toutes les grandes questions qui agitent la cité ou qui agitent tout existant.
Très bien, très bien. Alors, je te posais cette question parce qu'effectivement, mais tu y as répondu, avec effectivement cette forme de médiation et d'accompagnement bienveillant, on peut tout voir et on peut, d'une certaine manière, rire de tout. J'étends le mot rire à tout, vraiment, à l'idée de la réflexion. Je pensais à ça concernant des films terribles comme Les 120 jours de Salo, Les 120 jours de Sodome de Pasolini ou des œuvres... Qui ont été accostés, des choses comme ça. J'aimerais encore revenir, et puis je dois quand même te dire qu'il est 20h, donc il faut qu'on s'arrête là. Donc on va vraiment, si tu as encore 2-3 minutes, et puis après, je pense qu'il faudra qu'on continue à un autre moment, parce qu'il y a énormément de choses sur lesquelles il faudrait revenir, mais pour en revenir et pour en terminer avec cette notion de parcours et de cheminement, j'aimerais citer 3 personnes. J'aimerais citer Mayakovsky, Garcia Lorca et... les groupes Medvedkin. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression, mais tu vas me dire tu vas me démentir certainement, mais j'ai l'impression qu'il y a l'idée effectivement d'un voyage, effectivement on l'a dit à l'intérieur et géographique, mais qu'il y a également le fait d'amener quelque chose ici et là-bas, et qu'il y a également le fait de se regarder, de s'extraire de sa condition pour se voir un peu à l'idée de Medvedkin, ou les groupes Medvedkin, où au moment où on fait le film, on le projette le soir même aux ouvriers qui ont été filmés pour leur dire, regardez, quelle est votre condition. Peut-être que quand on a le nez dans le guidon, on a moins cette conscience critique, et que d'en sortir permet d'en tirer quelques conclusions. Je ne sais pas, qu'est-ce que t'en penses ?
Oui, en fait, il y a deux sources d'inspiration. La démocratie athénienne, qui était une démocratie directe et pas une démocratie représentative, se nourrissait, se raccordait à la tragédie. Elle se raccordait pleinement à la tragédie. Et le fait de participer au cœur des tragédies athéniennes était reconnu comme un acte citoyen et donc valait service militaire, par exemple. Les gens étaient reconnus comme effectuant un travail civique. L'autre exemple que je pourrais prendre, c'est effectivement l'exemple soviétique dans ses tout débuts. Il y a eu 4 attitudes lors de la révolution russe en ses débuts. La première attitude, on pourrait dire que c'est celle du prolétkult, considérer qu'il faut donner un pinceau, je le dis pour prendre l'exemple de l'art pictural, donner un pinceau à tout ouvrier et paysan et qu'il produise son propre art. Mais ce que ça a donné souvent, c'est du sous-art petit bourgeois, parce que les gens n'avaient pas eu une culture, n'avaient pas développé un questionnement sur les formes, sur le fond, et donc on avait une forme de sous-art petit bourgeois. Il y a eu une deuxième attitude qui était celle de l'un des noms que tu cites, Mayakovsky, qui considérait que à l'art bourgeois ou aristocratique, il fallait opposer une autre forme d'art beaucoup plus recherchée, c'était le fameux futurisme, le constructivisme, mais qui ne touchait pas véritablement les foules. Et puis il y a une troisième attitude qui était celle des productivistes qui disait que c'est l'idée même de l'art qui doit bouger. Il faut d'une certaine manière esthétiser la vie. Et donc, c'est c'est l'établi du menuisier dont il faut faire cas. Ce sont les rues, ce sont la forme des bâtiments qui doivent être les nouveaux supports de l'art. Et puis, il y a eu une quatrième attitude qui était représentée par le gouvernement, par Lénine et par son commissaire du peuple aux arts et à la culture, Lunacharsky, Lunacharsky était très ouvert, qui considérait que c'était un peu tout cela, mais qu'il ne fallait pas tout jeter non plus de l'art qui avait précédé, qu'il fallait simplement y accéder d'une manière critique. Lénine avait ce mot, il parlait d'assimilation critique. Alors, le terme d'assimilation est un peu problématique, mais il parlait je préférerais dire acculturation critique, c'est-à-dire qu'il faut y accéder, mais savoir que c'est un art produit par un bourgeois ou produit par un noble, ou etc., savoir qu'il est situé. Mais ainsi, Marx et Engels étaient lecteurs de Balzac. De même, Lénine a pu lire Tolstoï, même si on n'avait pas affaire là à un pur social-démocrate russe. Donc, ce que je crois, c'est que c'est peut-être ces 4 options de la révolution russe qui sont intéressantes. Et d'une certaine manière, dans ces 3 adjectifs de la marmite, on a l'idée de regarder ce qui se fait, mais d'un œil critique et sensible, de produire soi-même sa vision du monde et de raccorder la culture à la citoyenneté. Donc on retrouve une forme de relecture de ce moment grec et de ce moment russe avant la chape de plomb stalinienne dans les idéaux de la marmite. Et il nous a semblé que le symbole de... le symbole de la Commune de Paris était bon à prendre parce que c'est peut-être le plus grand, le plus beau mouvement d'émancipation de l'ère moderne et que d'une certaine manière, tout homme engagé doit se savoir situer. La marmite nous permettait de signaler que nous étions nés à Genève, même si pour beaucoup, ça paraît peut-être un symbole opportuniste et plutôt compris par des gens bien loin de nos idées quand il est évoqué à Genève.
Du point de vue plus contemporain, deux questions si ça te va encore ?
Oui.
Et puis après, évidemment, si tout d'un coup une question émergerait extrêmement brève, on pourrait encore donner un micro, mais du point de vue contemporain, où on en est maintenant, alors on voit ces mouvements qui émergent, on a parlé tout à l'heure avec une très, très jeune fille concernant les grèves climatiques, j'aurais voulu que tu dises quelques mots, quelle est l'observation que tu fais du mouvement situationniste de Debord, de Van Hegem, parce qu'effectivement tu as parlé de, pas de détournement, mais voilà, ça c'est également une option qui pourrait être critique, et puis le fait de détourner ce que l'on voit dans la cité, ce que l'on observe au détour de nos déambulations, ça pourrait être également un angle intéressant. Est-ce que ça fait partie des parcours potentiellement produisibles au sein de la marmite ?
Oui, absolument. Il n'y a aucune thématique qui nous soit étrangère, il n'y a aucun type d'artiste qui nous soit étranger. Là, on travaille avec des artistes de disciplines artistiques très distinctes, avec des groupes sociaux extrêmement variés, sur des thématiques également différentes. Toute thématique existentielle ou citoyenne nous intéresse d'une certaine manière. On ne choisit pas nous-mêmes nos thématiques, c'est-à-dire qu'on va voir ce que les scènes de la démocratie, les scènes financées par l'argent public, on essaye de voir ces scènes qui sont très peu accessibles à ces populations dont nous parlons. On parle souvent d'un échec relatif de la démocratie, mais on essaye de se dire, tiens, vous mettez de l'argent public, l'argent de tous, dans ces programmations, est-ce que véritablement elles sont reçues par toutes et tous ? Nous ne le pensons pas. Et comment elles sont reçues quand on crée ce rendez-vous qui de lui-même ne se crée pas ? C'est-à-dire des femmes migrantes, c'est-à-dire des personnes en situation de polyhandicap et autres. Eh bien, comment ils réagissent à cette culture financée par l'argent de la démocratie, financée par l'argent de tous ? Donc on pourrait tout à fait imaginer un parcours situationniste. D'ailleurs, il faut dire qu'on avait travaillé sur la notion de valeur dans un groupe qui s'est appelé le groupe Georges Bataille, dont l'épisode plastique, l'épisode exposition, était une expo du MAMCO sur le situationnisme.
D'accord, très bien. Merci beaucoup Mathieu Minghini pour toutes ces informations extrêmement denses.
Merci beaucoup.
Avec beaucoup de plaisir, nous découvrirons le site internet lamarmite.org. Une dernière question. Alors le site internet, on vient de le dire, il y a certainement toutes les adresses de contact et toutes les informations dessus. Mais s'il fallait lancer un appel, de quoi aurait besoin la marmite ?
En fait, on est une université populaire nomade. On n'a pas de lieu. On n'a pas de lieu physique. On va dans les lieux. On va observer ce qui se fait. Donc, soyez attentifs à ce site internet. Il y a un certain nombre. Donc, beaucoup de choses se passent dans les groupes, à l'intérieur des groupes. Et ce sont comme des présences un peu clandestines dans les scènes publiques ou les scènes de cinéma de Suisse romande. Mais on a quand même quelques occurrences publiques, des projections de films gratuites, des rencontres, débats, toutes gratuites. Je peux peut-être citer juste la prochaine. Ce sera sur le thème, que je ne fasse pas erreur, Utopie et liberté. Ça peut ne pas vous désintéresser. Avec Isabelle Frémaux et John Jordan, qui sont d'ardents défenseurs d'expériences libres, pour ne pas dire libertaires. Ce sera le jeudi 7 février à 20h. Donc on a des moments publics et puis des moments où les groupes sont en catimini. L'idée, c'est de ne pas... On a travaillé vraiment sur les réflexions sur les limites des universités populaires du début du XXe siècle, qui très vite, alors qu'elles étaient ouvertes aux petits employés, aux petits ouvriers, quand elles étaient également accessibles à la bourgeoisie qui avait le cœur sur la main, il n'y avait plus que les bourgeois qui parlaient. Et donc, on a décidé de faire des groupes socioculturellement homogènes et que la parole soit vraiment se fomente au sein de ces groupes. Simplement, à l'issue des parcours, après une année de parcours stimulé par des œuvres culturelles, ces groupes peuvent se fondre à la deuxième année dans ce qu'on appelle un cœur, comme les chœurs grecs qui sont les représentations, la cristallisation du peuple qui se donne une forme à lui-même. Donc, la deuxième année, toutes ces informations se trouvent sur notre site, ça devient un cœur. Et puis, il y a des moments qui sont ouverts au public, à tout le public, même celui qui ne fait pas partie des parcours de la marmite, eh ben, ce sont ceux que je cite, des projections filmiques gratuites de bons films en général, des projections, bah, par exemple un film sur une utopie anglaise, un film suisse, Stefan Schwittert, ce sera le 20 février au cinéma CDD à Genève, Imagine Waking Up Tomorrow and All Music Has Disappeared. Il faut imaginer se réveiller un matin et la musique a disparu. Il faut la recréer et c'est notre ambition à tous.
CDD étant aussi lure Chemin des Saules. Hein.
Voilà, absolument. Donc, y a des moments ouverts au public qui sont tous gratuits et puis des moments où on met en débat notre manière d'envisager les choses, ce que j'appelais les veillées, qui sont également ouverts à tout un chacun. Et puis, parce que vous contribuez à l'amélioration de notre marmite, vous êtes invité à un régal organisé par notre mère royaume à nous, qui est un peu libre, libertaire, Natacha Jacquot, pour ne pas la citer. Et donc, on paye les gens qui contribuent à améliorer notre marmite par ce repas très convivial à l'issue de chaque moment de débat.
Très bien, je te remercie beaucoup. On a encore plein de questions, mais on ne va pas le faire ce soir parce que voilà. Y aurait-il juste une petite question rapide ou on s'arrête là ? Non, ça va. Alors voilà, on te libère. Merci vraiment énormément, Mathieu Minguinib, de nous avoir parlé de la marmite. On le rappelle, www.lamarmite.org. Et on se retrouvera certainement bientôt. Voilà, on fait une petite pause musicale et on revient juste derrière pour la dernière partie de cette émission, déjà.
Je ne sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus.
Aujourd'hui je t'aime, oui mais demain, on ne peut jamais être sûr de rien. On va toujours seul sur la route, je continue coûte que coûte. Et puis une route en croise une autre, et puis une autre et encore une autre. Pourvu que la tienne, oh mon amour, croise la mienne tous les jours.
Je vais, oh ça je l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus.
Et je suis une cigale, t'inquiète fourmi, je crève pas la dalle. La musique c'est un bon gagne-pain, où que je sois, je manque de rien. Je chante toujours de quoi grailler, de quoi trinquer, de quoi causer. Je m'endors où il fait sommeil, et je passe l'été au soleil.
Je ne sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus.
Un jour ici, l'autre là-bas, la SNCF ne m'aura pas. Et toi qui n'as qu'une seule adresse, oh pauvre, si tu veux, je t'en laisse, mais échange de bons procédés. Si tu veux bien m'héberger, ben je serai le bienvenu, ben nous serons les bienvenus.